podcasts de Radio Vatican.
L'élection ce mercredi 15 février du nouveau gouverneur de Jakarta se déroule sur fond d'intolérance religieuse. Le gouverneur sortant, Ahok, est accusé de blasphème envers l'islam. En septembre dernier, il avait affirmé que l'interprétation par certains oulémas d'un verset du Coran, selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman, était erronée. Ses deux principaux adversaires espèrent profiter de cette accusation pour mobiliser l'électorat musulman ultra-majoritaire et gagner le scrutin. Ahok est en effet chrétien et appartient à la minorité d'origine chinoise. Il a succédé en 2014 à ce poste à Joko Widodo, surnommé Jokowi, l'actuel président de l'archipel dont il était l'adjoint. Au-delà de la place de plus en plus visible de l'islam dans la vie politique, Rémi Madinier, chercheur au CNRS, historien de l'islam en Indonésie, souligne qu'il y a aussi une explication plus politique à cette campagne visant Ahok.
La chute de Suharto, la réformatie, la démocratisation du pays a mis de plus en plus face à face deux camps, deux visions de la société indonésienne. L'une qui souhaitait, et elle y est parfaitement arrivée dans un premier temps, faire une transition sans changement réel, en maintenant au pouvoir une oligarchie coutumière des pratiques de la dictature de l'ordre nouveau. Le personnel politique s'est très peu renouvelé. Quand cela commence à se renouveler, la plupart de ces acteurs ont adopté les pratiques de népotisme, de corruption des années Suharto. Et face à lui, depuis quelques années, un petit peu pendant la révolution elle-même de 98 et surtout depuis l'élection en particulier de Jokowi, mais ça avait commencé un petit peu avant, des forces plus progressistes dont l'objectif est une société politique à l'occidentale, à l'européenne, avec des contre-pouvoirs, avec une presse libre, etc. Et ces deux visions de l'avenir s'affrontent autour en particulier de la question de la religion.
Est-ce qu'on n'est pas face justement à une manœuvre des deux opposants principaux du gouverneur sortant, qui sont musulmans, pour le discréditer et remporter l'élection finalement? Est-ce qu'on n'instrumentalise pas l'islam?
Alors, l'islam est totalement instrumentalisé en Indonésie. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. Suharto a commencé à le faire en 1990 avec la fondation de l'Association des intellectuels musulmans indonésiens. Alors, quant aux deux autres paires de candidats, c'est quelque chose qui les dépasse un petit peu au sens où eux sont les produits d'un système et ça n'est pas eux qui ont organisé les manifestations contre Ahok. C'est quelque chose qui est à la fois, je dirais, plus dans l'air du temps, plus dans la sensibilité exacerbée du moment et dans des manipulations qui se déroulent encore à un autre niveau.
Est-ce un moyen d'attaquer indirectement le président ?
Très clairement, Ahok symbolise un petit peu tout ce que les opposants de Jokowi détestent. Quelqu'un préoccupe avant tout d'actions très concrètes. Les deux hommes ont transformé plus rapidement la capitale en quelques années que ne l'avaient fait leurs prédécesseurs en plusieurs décennies, en résolvant des problèmes d'écoulement des eaux, de circulation, ou du moins en s'y attaquant. Alors personne jusqu'à présent n'avait réussi à le faire, sauf pour détourner de l'argent, et également, il est d'origine chinoise, sino-indonésien, il est chrétien, et ce sont des accusations qui avaient déjà été portées contre Jokowi, notamment au moment de la dernière campagne présidentielle, c'est-à-dire de représenter cette minorité sino-indonésienne, même chrétienne, même si Jokowi lui-même est javanais et musulman. On est donc dans une logique de discrédit, sorte de nationalisme qui joue sur les valeurs islamiques, quand bien même, d'ailleurs, ça peut paraître un petit peu étonnant, parce que toutes ces milices, au départ, sont des milices très locales, qui n'ont jamais manifesté une appétence particulière pour la religion. Et l'instrumentalisation de ces religieux est quelque chose, je dirais, d'extrêmement visible, qui se cache à peine.
La question ethnique, est-ce qu'elle est prégnante, vraiment, ou est-ce que c'est juste, encore une fois, une manière détournée de discréditer le gouverneur sortant?
La question ethnique en Indonésie, elle relève plusieurs réalités. Elle relève d'abord la question de l'équilibre économique ou socio-économique entre les différentes parties de l'archipel. Là, effectivement, il y a des enjeux, mais qui ne jouent pas tellement finalement dans le cas de l'élection pour le gouverneur de Jakarta. sauf à effectivement avoir en tête que Jakarta est un peu un microcosme de l'Indonésie. Et puis il y a une deuxième dimension qui est une dimension, je dirais, bêtement raciste, à savoir ce vieux fond d'hostilité qu'il y a en Indonésie et parfois ailleurs en Asie du Sud-Est contre la diaspora chinoise.
Est-ce qu'on peut parler d'un test sur la tolérance religieuse en Indonésie par rapport à cette élection du gouverneur de Jakarta ?
C'est effectivement un test, c'est-à-dire la question est jusqu'à où la classe politique peut accepter de jouer avec cette instrumentalisation du religieux sans que la situation ne lui échappe. Et on voit bien que le président Jokowi doit être très prudent, il est à la manœuvre depuis le début de l'affaire, il essaye d'allumer des contre-feux, il ne manque pas d'alliés, y compris d'ailleurs au sein des forces de sécurité, puisqu'encore une fois, c'est un vieux débat qui existe depuis longtemps en Indonésie, que si on remonte aux troubles religieux du début des années 2000, notamment les affrontements aux Moluques, là encore, la question de l'instrumentalisation politique était première. Donc test pour la société elle-même, avec... Ces dernières semaines, un phénomène intéressant, c'est que les accusations de blasphème se sont multipliées des deux côtés. C'est-à-dire qu'Habib Rizik, le chef de cette milice islamique radicale, le Front des défenseurs de l'islam, le FPI, est lui-même maintenant sous le coup de plusieurs accusations de blasphème. Il doit être entendu par la police parce que les associations de chrétiens, notamment, mais pas uniquement, ont décidé, comme ils l'avaient fait pour Ahok, de porter plainte contre lui parce qu'effectivement, ses prêches sont souvent remplis d'allusions pas très sympathiques aux autres religions que l'islam. On voit bien naître dans la classe politique et sans doute plus encore d'ailleurs dans la population le sentiment que c'est un jeu qui finalement ne va mener nulle part. Et la remontée récente dans les sondages d'Ahok montre bien que finalement l'opération a en partie échoué, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il n'a pas du tout, loin de là, été anéanti par le mauvais procès qui lui est fait.